distance des verstes, des milliers. On nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien transplantés sur la terre à deux extrémités. Marina Tsvetaeva.
L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskin.
En novembre 1922, après un court séjour en Allemagne, Marina Tsvetaeva, exilée, arrive à Prague, tandis que Pasternak est en voyage à Berlin, où se trouvent ses parents et ses sœurs. Leur correspondance vient juste de s'établir. Deuxième émission.
Berlin, le 12 novembre 1922. Chère Marina Ivanovna, autant prendre l'initiative de vous écrire à l'époque, de Moscou, pour vous parler de vous était un plaisir pur, autant je me suis senti oppressé et inquiet à l'idée de vous répondre. Obligation que m'imposait votre lettre, votre poème « Séparation », les mots pour le rêve et votre article me concernant. Oppressé, car connaissant parfaitement mon incapacité à être humain toujours et en tout temps, ou même à m'imaginer tel, je craignais à juste titre que ma gratitude, née dans un moment difficile pour moi, ne demeure un secret et ne vous parvienne avec un grand retard, ne vous apportant ni ne vous disant plus rien. Il existe bien des raisons à ma reconnaissance envers vous dont je vais vous faire part, en commençant par les mots pour le rêve. Mais d'abord, revenant à cette incapacité que je viens d'évoquer, je me demande si le début de ma lettre ne vous a pas paru obscur. Je sais que vous partagez ma passion pour ce que j'appellerai, par souci de brièveté, la poésie. Voici ce que j'entends par là. J'aime plus que tout au monde, et c'est peut-être là mon unique amour, la vérité de la vie telle qu'elle se présente naturellement, à l'instant où, sur le point d'être engloutie par les formes artistiques, elle passe le cratère du fourneau. Cette contorsion de la vie ne lui est pas imposée de l'extérieur. La forêt de Birnam s'engouffre dans la fournaise de son plein gré. Ne nous leurrons pas. Vraisemblablement, la vie ne nous laisse voir qu'un de ses côtés. En réalité, son flot se ramifie peut-être, formant un delta. Ne connaissant à fond, mais avec quelle intime douleur, qu'un de ces méandres, nous avons le droit d'imaginer que l'embouchure se trouve précisément à cette courbure-là. À n'importe quel endroit du cours supérieur, là où le fleuve ignore tout de la mer, pour peu qu'on ferme les yeux, captant dans une attention surhumaine l'écho de son chaos et la plasticité de ses clapotis, on l'imagine évoluer plus loin, en toute liberté, et on peut ainsi connaître son essence dès à présent. Pour insuffisante que soit cette comparaison, elle est déjà excessive. Je serai précis afin d'éviter tout débordement. Ne voyant qu'un côté de la vie, j'ai tendance à identifier cette dernière avec la lueur, impatiente comme le désir, qui scintille dans ses yeux lorsqu'elle songe à l'immortalité, s'imagine qu'elle en est éprise, s'en convainc même et se précipite à sa rencontre en délaissant tout le reste. Le visible de la vie, émouvant dans sa cohésion et qu'on pourrait appeler aussi la beauté, n'est rien d'autre que cette orientation épousée par la vie elle-même avec vaillance et désespoir. Séparation a les mêmes qualités que Verst. La même multiplicité fougueuse, la même richesse spontanée, une torpille lancée que rien n'arrête. Un tel livre, entre les mains d'un homme capable de sentir, n'attend pas la visite de spécialistes. On l'emporte en se rendant chez des amis à Pouchkino, comme si c'était le sien, avec fierté et joie. Je vous remercie tout spécialement pour les mots. J'ai eu la sensation, qui ne passe pas, que par bien des aspects et jusqu'à leur sonorité, les mots pour le rêve sont extrêmement, et à dessein, proches de l'univers de ma sœur la vie. Ne vous moquez pas de moi et pardonnez-moi si ce n'était pas le cas. Mais si je ne suis pas dans l'erreur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous suis particulièrement reconnaissant pour ce poème. Je l'aime terriblement. Dans les moments où Caligula croit que sa tête est en verre, en voyant dans les mots une tête sublime, magnifique, qui embellit tout ce vers quoi elle se tourne, une tête insomniaque extraordinaire, étonnante, il cesse de tâter la sienne et se calme complètement ou, du moins, puise un calme relatif dans une réflexion sur l'utilité du vers. Dois-je vous expliquer que vos mots me soutiennent dans les moments où je doute de moi? L'art, où je n'ai pas d'égal, faut-il vous l'expliquer alors que certains aspects de votre article montrent une compréhension presque surnaturelle? Je me limiterai au plus remarquable. Le rapport de ma sœur La Vie à la Révolution est analysé de telle manière, et avec des coïncidences si fréquentes dans l'argumentation qu'il serait bon de réfléchir au jeu secret des liaisons radio qui nous avaient échappé jusque-là. Les droits de l'homme et du citoyen sont proclamés en leur qualité de nature originelle, avec un élan presque lyrique. L'esprit du droit naturel transforme le monde, pour un moment, en une sorte de paradis. C'est de façon réelle que la Révolution restitue à la nature cette signification abyssale qu'elle possédait au paradis, durant la période botanique de l'histoire, dans ce chapitre où il est question du monde engendré, le monde comme croissance. Quelques jours sont occupés à la subtile mécanique des abolitions et des abrogations. Tout ce qui, aux yeux de cet esprit de la nature déifiée, semble antinaturel ou mécréant, est balayé. Les protestants, les girondins, les anarchistes. C'est le printemps. Tout dégringole, disparaît sans laisser de traces. Qui peut encore demeurer debout sur ses jambes au risque de ne plus tenir dessus? La réponse à ce « qui » paraît étrange. L'été. L'été, ce racloir étincelant, omniprésent, jouant de roulements de tonnerre, avec son soleil insomniaque, d'une courtoisie étonnamment miséricordieuse envers l'homme, étonnamment docile dans son obscure obéissance au ciel nocturne qu'il observe marcher dans ses orgueilleuses voies terrestres. L'été apocryphe, maladroit comme un mastodonte confié aux soins de puéricultrice, l'été, lui, reste debout jour et nuit. Dans une de vos remarques concernant la phrase « Ne savoir passer sans piétiner la création », lorsque vous parlez de la responsabilité de chacun, de ses pas, de ce frisson à l'idée de détruire, vous avez été volé par vous-même. C'est déjà dit chez Marina Tsvetaeva. Passe sur la terre au pas de danse, fille de la nuit. Le tablier plein de roses, sans déranger une seule pousse. Je baise votre main. Votre Boris Pasternak. Postscriptum. J'ai été très chagriné et découragé de vous avoir manqué à Berlin. En quittant Mayakovsky, Asseyev, Kousmin et d'autres personnes, j'escomptais, sur cette même lancée, une rencontre avec vous et avec Bieli. À ce moment-là, Mayakovsky n'était pas encore arrivé ici. Mais ma déception vous concernant n'est que bonheur en comparaison avec celle que m'a infligée Bieli. Ici, tout le monde guerroie avec tout le monde, trouve dans l'entrechoquement de copies arbitrairement polémiques, d'une emphase toute théâtrale, la fiction qui remplace l'objet absent. En fait, tous les membres de cette équipe devraient se respecter mutuellement et apprécier leur mécontentement réciproque, sans lequel cette fiction n'existerait pas. Or, personne, pas même Bieli, ne fait preuve d'une telle cohérence. Chose terrible, il est prêt à se résigner à cette existence-là. Quant à moi, selon ses dires, c'est sur la Lune que j'essaie de les entraîner. Et il ne sied pas à tout le monde d'habiter sur la Lune, sans compter que ce n'est pas du goût de certains.
Mokropsy, le 19 novembre 1922. Mon cher Pasternak, Mon moyen de communication préféré tient de l'au-delà. Le rêve, voir en rêve. En second vient la correspondance. La lettre, comme moyen de communication au-delà, est moins parfaite que le rêve, mais les lois sont les mêmes. Ni l'un ni l'autre ne se font sur commande. Rêver, écrire. Ça ne vient pas quand nous en avons envie, mais quand vient l'envie, à la lettre d'être écrite, au rêve d'être fait. Mes lettres veulent toujours être écrites. Aussi, et d'emblée, ne vous rongez jamais, pas le moindre remords, si vous ne répondez pas, et surtout pas question de reconnaissance. Tout grand sentiment est une fin en soi. Votre lettre, je l'ai reçue à 6h30 ce matin, et voici le rêve en plein milieu duquel vous êtes tombé, je vous l'offre. Je longe d'étroites passerelles. Constantinople. Derrière moi, une fillette en robe longue, petite. Je sais qu'elle ne me lâchera pas, c'est elle qui me conduit. Mais comme elle est petite, elle n'arrive pas à me suivre, alors je la prends dans mes bras. Barrant mon bras gauche, un flot de soie rayée, sa robe. Un petit escalier. Nous montons. Me voir moi dans mon rêve, bon présage, mais la fillette, surprise à venir. Des lits rayés sur pilotis en bas, une eau noire. La fillette a des yeux furibonds, mais elle ne me fera aucun mal. Elle m'aime, bien qu'elle n'ait pas été envoyée pour cela. Et moi, dans mon rêve, je dompte par la douceur. Ici intervient votre lettre, apportée par mon mari qui rentre de Svobodarny, le foyer des étudiants russes à Prague. Ils ont fêté hier un anniversaire, toute la nuit. Mon mari est arrivé par le premier train du matin. Vous avez une écriture magnifique. Vous dévorez les verstes au galop. Et verstes, et crinières, et traîneaux, et tout à coup claquement de rennes. Tête baissée, mais point casse-tête. Magnifique, remarquable, courageuse écriture. On y croit aussitôt. Votre lettre, je ne l'ai d'abord pas comprise. La joie et le sommeil m'enténébraient l'esprit. Pas un mot. Au fait, le mot est pour moi le truchement de la voix, nullement celui de la pensée, de l'intention. La voix, je l'entendais. Puis les mots, leurs liens, comme l'aube, se sont levés. J'ai tout compris. Maintenant, écoutez très attentivement. J'ai connu vraiment beaucoup de poètes, je les voyais, passais un moment avec eux, bavardais, et quand nous nous quittions, je devinais plus ou moins la vie de chacun d'eux en mon absence. Mais avec vous se passe une chose étonnante. Je n'imagine pas une seule de vos journées. Je ne vois pas votre place dans la vie, apparemment. Pardonnez mon audace. Vous n'y vivez pas. Il faut vous chercher, vous suivre, ailleurs. Et non parce que vous êtes poète, donc irréel, non. Cela tiendrait plutôt au fait que vous décrivez les deltas, la discontinuité de votre existence. C'est si fort que je l'ai, sans savoir, transposé dans la vie quotidienne. Exactement. Vous envoyez votre ombre pour vous remplacer dans la vie et vous lui donner les pleins pouvoirs. Strophes et songes. C'était alors l'été. J'avais un balcon à moi, surplombant Berlin. La pierre, la chaleur. Votre livre vert sur mes genoux, j'étais assise par terre. Pendant 10 jours, j'ai vécu de lui. Comme à la crête d'une grosse vague, abandonnée à elle, docile, et, comme un bon nageur, j'ai eu exactement le souffle nécessaire aux 8 vers qui, j'en suis heureuse, vous ont plu. Une seule ligne suffit, aujourd'hui encore, à me chavirer le cœur. Je n'aime pas les rencontres dans la vie. Les fronts se heurtent. 2 murs,
Ce n'est pas ainsi que l'on pénètre. La rencontre doit être une arche. Alors elle est au-dessus, front relevé. Mais à l'heure actuelle, les gens se séparent pour trop longtemps. C'est pourquoi je veux une réponse, en termes clairs et nets. Pour combien de temps êtes-vous là? Quand partez-vous? Je vis en Tchécoslovaquie, aux environs de Prague, à Mokropsi, dans une cabane de paysans, la dernière maison du village. Un ruisseau au pied de la montagne, j'y vais puiser l'eau. Un tiers de la journée passe à alimenter l'énorme poêle de faïence. La vie ici n'est guère différente qu'à Moscou dans sa part quotidienne, je dirais même plus démunie encore. Mais au vert se sont ajoutées famille et nature. Des mois durant, je ne vois personne. J'écris tout le matin et je marche. Ici, les montagnes sont merveilleuses. Prenez chez Hélicon les vers que j'avais envoyés à Épopée. Ça aussi, c'est ma vie. Et en guise d'adieu, je tiens à vous recopier mon poème préféré, récent lui aussi, écrit en Tchécoslovaquie. Cendre de trésor, perte, outrage. Cendre qui mette le granit en miettes. Claire colombe dépouillée, allant seule dépareillée. Cendre de Salomon, sur haute vanité. D'un jour sans nuit, le terrible coup de craie. Dieu à ma porte, quand la maison flambait? Je serais heureuse que vous m'expédiez de nouveaux poèmes. Pour moi, ils le sont tous nouveaux. Je ne connais que ma sœur la vie. Quant à ce que vous écrivez de certaines coïncidences, correspondances, conjectures, mon Dieu, vraiment, c'est bien le non-heur des fronts. Le mien, de front, tandis que j'écrivais sur vous, était relevé. Alors, naturellement, je vous ai vu. Marina Tsvetaeva.
Marina Tsvetaeva, inspirée par Ma sœur la vie, écrit La vie ment inimitablement,
qu'elle envoie à Boris Pasternak en novembre 1922.
La vie ment inimitablement, au-delà de l'attente. Au-delà du mensonge. Mais au tremblement de toutes les veines, tu peux reconnaître la vie. Comme couchée dans l'orge, une cloche, l'azur. Comment, couchée dans le mensonge, la chaleur, le mur. Bredouillement, à travers le chèvrefeuille, de sang d'art. Réjouis-toi donc, il appelle. Et ne me reproche rien, mon ami. Nos âmes sont ensorcelées dans nos corps et déjà le front s'égare dans le rêve. Car pourquoi as-tu chanté? Dans le livre blanc des silences, dans l'argile sauvage de tes « oui », j'incline doucement la fondrière du front, car ma paume est ma vie.
C'était L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
Avec Juliette Roudet, Cédric Lenoir et les voix de France Ducato et Félicien Jutner. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Dimitris Capolan. Assistante Julie Béressi, réalisation Étienne Vallès.
Poème traduit par Ève Malray, Henri Deluy, Bernard Kreise. Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, correspondance 1922-1936, est parue aux éditions des Sirtes. Traduit du russe par Evelyn Amourski et Luba Jorgensen. Les lettres à Pasternak de Marina Tsvetaeva sont parues aux éditions Clémence Hiver, traduites par Nadine Dubourvieux.